Also vielen Dank, Frau Rufler. Und grand merci, Stéphane. Ich hoffe, dass Sie mich gut hören können. Also meine Damen und Herren, es ist mir eine Freude, bei dem Schweizerischen Verein für Familienmediation vorzutragen. Ihr Generalsekretär hat mich gebeten, einige Gedanken zu der Tätigkeit zu teilen, die Sie täglich praktizieren. Stefan mi ha suggerito anche di dire due parole in italiano, che è la mia lingua madre, ciò che faccio volentieri, non solo perché il Ticino è una terra a cui la mia famiglia è affezionata, la mia famiglia è lombarda per più del 50%, i miei genitori, residenti milanesi, escursionisti esperti, hanno visitato più di 50 capanne, berghütten, nelle numerose valli, sottovalli, 100 valli ticinesi, ma anche perché il Ticino è una sede giudiziaria di primaria importanza, sicché è quanto mai opportuno promuovere le attività della vostra benemerita associazione presso i colleghi della Svizzera italiana. Also, wie Sie allen wissen, findet die Mediation zwischen zwei oder mehreren Menschen statt. Diese Menschen können für sich selbst, aber auch im Namen anderer Menschen handeln. Die Wirtschaftsmediation erfolgt zwischen zwei Unternehmen. Die zwischenstaatliche Mediation zwischen zwei Staaten. Der russisch-ukrainische Krieg sucht verzweifelt nach Mediatoren und Mediatorinnen. Aber selbst wenn es sich bei den Mediationsparteien um zwei juristische Personen handelt, Handelsgesellschaften oder Staaten, findet die Mediation immer zwischen Menschen statt. Lassen Sie uns also einige einfache Worte über uns Menschen sagen. Heinrich Henkel, der sowohl Jurist als auch Anthropolog war, sprach von den biologisch-anthropologischen Vorgegebenheiten des Rechts. Als Menschen haben wir vielfältige Bedürfnisse. Einige davon sind lebenswichtig, Nahrung, Unterkunft, Pflege. Andere sind objektiv betrachtet weniger lebenswichtig, in einem Haus mit Pool zu leben zum Beispiel. Aber auch weniger lebenswichtige Bedürfnisse können für die Person, die sie verspürt, subjektiv wichtig sein. Die menschlichen Bedürfnisse dehnen sich ständig aus, wie das Universum nach der Urknalltheorie. Ich zitiere oftmals die Präambel der Verfassung des Kantons Waadt, in dem vom Épanouissement de chacun dans une société harmonieuse die Rede ist. Wir streben also nach Selbstverwirklichung. Die Charta der Vereinten Nationen spricht vom Streben der Männer und Frauen nach besseren Lebensbedingungen in größerer Freiheit. Um uns selbst zu verwirklichen, leben wir in einer Reihe von Gemeinschaften. Gemeinschaft, also das Wort Gemeinschaft, bezeichnet eine Gruppe von Personen, die etwas gemein haben, die etwas teilen. Die Familien ist freilich die erste Gemeinschaft, in die wir eingeworfen sind. Vor einem Jahr haben meine Frau und ich ein Kind bekommen, das Leonardo heißt, klassische Kernfamilie. Man kann aber auch einen erweiterten Familienbegriff verwenden. Wir haben vor kurzem Leos ersten Geburtstag gefeiert. Unsere beide Familien waren dabei, Großeltern, Tanten, Onkel, viele Leute, zu viele nach meinem Geschmack. Zweitens spielt sich ein Teil unseres Alltags in der Gemeinschaft der Nachbarn ab. In Kürze müssen wir uns darum kümmern, den Gastank zu verlegen, der etwa 15 Häuser, darunter auch unseres, versorgt. Und wir mussten zusammen mit unseren Nachbarn mehrmals zusammenkommen, was natürlich zu Meinungsverschiedenheiten geführt hat. Wie alle Einwohner der Schweiz leben wir in einer Gemeinde. Das Wort Gemeinde bezieht sich wiederum auf das, was gemein ist. Weiterhin handeln wir innerhalb von Berufsgemeinschaften. Für mich die Universität Genf, man spricht von der akademischen Gemeinschaft, die Studierenden, Professorinnen und Professoren und so weiter umfasst. Es gibt natürlich auch den privaten Sektor, Handelsgesellschaften, Société Commerciale. Der Begriff Societas bezeichnet die Soci, die Partner, die Verbündeten, diejenigen, die durch eine Gemeinschaft verbunden Grund sind. Dann sollen Berufsverbände erwähnt werden, wie die Association Suisse pour la Médiation Familiale. Association bezieht sich wiederum auf Socius. Konföderation hat eine ähnliche Bedeutung. Cum und Fœdus. Für die Schweiz war das zunächst der Pacte Fédéral, der Bundesbrief von 1291. Die menschlichen Gemeinschaften sind in staatlichen Gesellschaften organisiert. Ein Staat ist doch auch eine menschliche Gruppierung, Volk und Bevölkerung. Die Verfassung des Kantons und der Republik Genf erinnert an den Sozialvertrag Contrat Social, den das Genfer Volk entschlossen ist zu erneuern. Republik, Respublika, das ist die öffentliche Sache und damit die gemeinsame Sache. Frankreich, Italien, Deutschland und 24 weitere Staaten bilden eine immer engere Union der Völker, Ziel des Vertrags über die Europäische Union. Der Europarat, eine noch ältere supranationale Organisation, der auch die Schweiz natürlich angehört, spricht ebenfalls von der Aufgabe, einen engeren Zusammenschluss unter seinen Mitgliedern zu verwirklichen. Alle Staaten der Welt, meine Damen und Herren, bilden eine Internationalgemeinschaft, die Vereinten Nationen. Wir, die Völker der Vereinten Nationen, die prächtige Präambel der Charta, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte spricht von allen Mitgliedern der Gemeinschaft der Menschen. Auf Französisch ist noch besser, tous les membres de la famille humaine. Der Generalsekretär Kofi Annan sprach gerne von der Grande Famille Humaine, sehr weit gefasster Begriff der Familie, weiter als die Familie, für die sich Ihr Verein interessiert. Yuval Harari macht darauf aufmerksam, dass wir eine gemeinsame Großmutter teilen, die vor 4 oder 5 Millionen Jahren geboren wurde, ein Primatenweibchen. Die Idee der großen Menschheitsfamilie spiegelt also auch eine biologische Wahrheit wider. Wir begehen uns in Gemeinschaften, weil wir mit unseren Mitmenschen interagieren müssen. Wir sind beziehungsorientierte Wesen, weil wir voneinander abhängig sind. Wir brauchen Zuneigung, Fortpflanzung, Union von Mann und Frau. Wir müssen Produkte konsumieren, die andere herstellen, Konsumgesellschaft. Denken wir nun an die Verzweiflung, die jede von uns empfinden würde, wenn er die Gegenstände, die er im Alltag benutzt, allein herstellen müsste. Wie verzweifelt zum Beispiel wäre Stefan, sollte er seinen Computer selbst produzieren. Diese Arbeitsteilung ist auch international. Die menschliche Gruppierung, die wir Schweiz nennen, benötigt Öl und Gas, das von dieser anderen Gruppierung, die Russland heißt, gefördert wird. Die Ägypter sind zu 80% von Mais und Weizen aus der Ukraine und Russland abhängig. Eines der Gebiete, auf denen ich forsche, ist das internationale Privatrecht. Familienbeziehungen zwischen Staatsangehörigen verschiedener Länder, Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen, die ihren Sitz in verschiedenen Ländern haben, soziale Beziehungen zwischen Personen, die sich in unterschiedlichen Gebieten bewegen. Die sozialen Netzwerke, Social Networks, ermöglichen die Schaffung grenzüberschreitender Netzwerke. Also menschliche Gemeinschaften geben sich selbst Rechtsregel bzw. Norm. Die Gemeinde Bassin, wo ich wohne, gibt sich kommunale Regeln, Verwaltung von Kindertagsstätten, Organisation der Abfallentsorgung. Diese sind wichtige Dinge. Der Kanton Waadt gibt sich kantonale Regeln, das Steuergesetz zum Beispiel. Der Bund gibt sich föderale Regeln, Zivilgesetzbuch, Strafgesetzbuch. Zwei Staaten geben sich zwischenstaatliche Regeln. Die Verwaltung des Grenzflusses Rhône, der Tausende von Einwohnern in der Schweiz und Frankreich mit Wasser und Strom versorgt, setzt 30 binationale Instanzen voraus. Es gibt natürlich auch private Normen. Meine Frau und ich setzen uns selbst Normen. Heute Morgen passe ich auf Leonardo auf, heute Nachmittag du. IKEA gibt sich Normen, um die Beziehungen zu seinen Mitarbeitern und Kunden zu regeln. Ihr Verein gibt sich auch Normen, die zum Beispiel die Beiträge und so weiter regeln. Diese Regeln und Normen gestalten die menschlichen Interaktionen. Man kann ihre Aufgabe auf verschiedene Weise beschreiben. Zum einen kann man sagen, dass die legitime Erwartungen bestimmen, die Mitglieder einer Gemeinschaft an andere Mitglieder haben können. Man kann auch sagen, dass solche Regeln und Normen nach Gerechtigkeit in den menschlichen Verhältnissen streben. Man könnte aber auch sagen, dass solche Regeln und Normen darauf abzielen, Konflikte zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft zu verhindern. Denn menschliche Interaktionen können gewalttätig und sogar zerstörerisch sein. Die Nähe, die Männer und Frauen als Mitglied einer Gemeinschaft verbindet, kann eine Quelle von Sicherheit, Wohlbefinden, Glück und Selbstverwirklichung sein. Diese Nähe kann aber auch zu Spannungen, Konflikten, gegenseitige Zerstörung führen. Man muss sich nur die Interaktionen innerhalb der Familie ansehen. Sie erleben es jeden Tag. Haben die französischen Begriffe Conjoint, conjugal, nicht dieselbe Wurzel wie der Begriff Juge, der Zwang bezeichnet. Ein italienisches Sprichwort zufolge, parenti serpenti. Verwandte können so bösartig wie Schlangen sein. Oft waren die schlimmsten Feinde zuvor die besten Freunde. Sind Russen und Ukrainer nicht Teil der gleichen Familie? Je enger die Beziehung zwischen zwei natürlichen oder juristischen Personen ist, desto zerstörerischer kann der Konflikt sein, der zwischen ihnen entstehen kann. Das Gemeinsame ist auch Gegenstand von Antagonismen zwischen den Menschen, von denen sich jeder einen größeren Anteil am Gemeinsamen sichern möchte. Ein Gebiet, Ressourcen, Geld, das gemeinsame Kind. Ich möchte heute daher betonen, dass Prävention ein Bestandteil der Regeln und Normen ist, die sich menschliche Gemeinschaften geben. Konflikten, schädlichen Interaktionen vorzubeugen, bedeutet, die interpersonelle Harmonie zu bewahren. Und die interpersonelle Harmonie trägt zur kollektiven Harmonie bei, zu jener harmonischen Gesellschaft, die in der Verfassung Barth erwähnt wird. Beispiele: Strafrecht. Es soll Vergehen, Verbrechen, schwere Verletzungen der Kooperationsformen verhindern. Aber auch die Regeln des Zivilverwaltungs- oder Verfassungsrechts zielen darauf ab, Konflikte zu verhindern. Die Regeln für Mietverträge sollen festlegen, wer von den Vermietern und den Mietern für welche Reparaturen und Energieeffizienzmaßnahmen zahlen muss. Die Aufteilung der Kompetenzen zwischen Kanton und Konföderation zeigen auf, wer welche Anti-Covid-Maßnahmen ergreifen kann. Vermeidung von Konflikten zwischen den Staatsgewalten. Das Hague-Übereinkommen von 1980 versucht, Kindesentführungen zu verhindern. Grundregeln des Völkerrechts sollen verhindern, dass die Armeen eines Staates in das Gebiet eines anderen einfallen. Das ist ja das Herzstück der internationalen Ordnung. Der Großvater, meine Damen und Herren, der Großvater meines Patenkindes, Alessandro, musste in alle Eile aus seiner Stadt Chernihiw in Ukraine fliehen. Kurz darauf wurde das Gebäude, in das er seine Ersparnisse investiert hatte, bombardiert. Ein Konflikt also in einen offenen Krieg ausarten, Naturzustand. Ein Konflikt kann aber, also zwischen Menschen, kann aber auch ein Rechtsstreit hervorrufen. Rechtsstreit ist ein juristisch aufgeladener Begriff. Er verweist auf ein Verfahren, in dem über ihn entschieden wird. Der Modus, der für Juristen traditionell ist, ist der gerichtliche Modus. Die anderen Modi werden als alternativ bezeichnet, Alternative Dispute Resolution. Der Richter ist ein neutraler und unparteiischer Dritter, der den Rechtsstreit entscheidet. Er ist auch ein Vermittler, jemand, der sich in die Mitte stellt. Dies ist auch der Fall beim Schiedsverfahren. Als Schiedsrichter sitze ich in der Mitte der beiden Parteien. Der Richter bzw. Schiedsrichter soll eine Äquidistanz, einen gleichen Abstand zu beiden Parteien aufrechterhalten. Geografische, kulturelle, emotionale Äquidistanz. Doch um diesen Richter oder Schiedsrichter geht es heute nicht. Es geht vielmehr um die Mediatorin, um den Mediator. Der Begriff Mediator verweist auf eine mittlere Position, Vermittler, derjenige, der sich in die Mitte stellt. Mittel ist die Mitte, aber auch das Mittel. Medium auf Lateinisch. Die Medien sind die Kommunikationsmittel. Mediation ist ein Mittel, um die Kommunikation wiederherzustellen. Die Mediation findet, haben wir gesagt, zwischen Mitgliedern der menschlichen Gemeinschaften, die wir uns angeschaut haben, Familienmediation zwischen Mitgliedern dieser primären Gemeinschaft, die die Familien bildet, Nachbarschaftsmediation zwischen Nachbarn, Mediation am Arbeitsplatz zwischen Kollegen, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, Handelsmediation zwischen zwei Unternehmen, zwischenstaatliche Mediation. Der israelische Premierminister bot sich an in den Verhandlungen zwischen dem Regime in Russland und der ukrainischen Regierung zu vermitteln. Die Schweiz hat oft als Vermittlerin fungiert. Tradition der Bons Offices, guten Dienste. Die Mediation, wie zumindest in vielen Gesetzen definiert wird, setzt die Entstehung eines Konflikts voraus. Die Mediation greift mit dem Ziel ein, den Konflikt zu lösen, zu seiner Lösung beizutragen. Zwar hat auch die Mediation auch einen präventiven Zweck, aber dann ist es ihre Aufgabe, die Eskalation, die Ausbreitung des Konflikts zu verhindern. Wie das sogenannte humanitäre Völkerrecht. Es soll verhindern, dass ein Krieg, der nicht verhindert werden konnte, noch tödlicher wird. Und dieses Ziel ist natürlich von grundlegender Bedeutung. Also ich hatte Stefan vorgeschlagen, eine Bestandsaufnahme der Fortschritte im Bereich der Mediation zu machen. Dann nach dem Ausbruch des Krieges habe ich die Ausrichtung etwa angepasst. Aber ich werde ein paar Worte zu diesen Fortschritten sagen. Das Bewusstsein für die Vorteile der Mediation scheint mir, meine Damen und Herren, zu wachsen. Ich sage nicht, dass es ausreichend ist. Ich sage, es wächst. Einige Beispiele. Europäische Union, EU-Richtlinie über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen. Sie stammt aus dem Jahr 2008. Sie sagt uns, dass das Ziel der Sicherstellung eines besseren Zugangs zum Recht den Zugang sowohl zu gerichtlichen als auch zu außergerichtlichen Verfahren umfassen soll. Das Recht, das ist wichtig, das Recht auf Zugang zum Recht ist nicht identisch mit dem Recht auf Zugang zum Richter. Es umfasst das Recht auf Zugang zum Mediator, zur Mediatorin. Eine Gemeinschaft, die das Recht auf Zugang zur Mediation organisiert, ist also eine Gemeinschaft, die für ihre Mitglieder das Recht auf Zugang zum Recht verbessert. Welche Vorteile können die Mitglieder einer solchen Gemeinschaft aus der Mediation ziehen? Die Richtlinie nennt die kostengünstige und rasche Streitbeilegung und die Wahrung einer wohlwollenden und zukunftsfähigen Beziehung. Diese sind ja grundlegende Vorteile. Kostengünstige Lösung. Bei gleicher Qualität ist eine Lösung, die für die Parteien weniger kostspielig ist, eine vorzugswürdige Lösung. Wie viele Menschen gehen aus Gerichtsverfahren finanziell ruiniert oder beinahe? Das ist besonders schlimm, wenn der Konflikt zwischen den Eltern besteht. Das Geld, das sie ausgeben, um sich gegenseitig zu bekriegen, ist Geld, das sie nicht mehr für die Ausbildung ihrer Kinder ausgeben können. Die direkte und indirekte Kosten der langwierigen Gerichtsverfahren lassen ein schwindelig werden. Diese Kosten sind möglicherweise höher, wenn die Familie international ist. Man kann es nicht oft genug sagen. Innereuropäische Fälle sind nicht selten, in denen Kinder bis zu 30 Gerichtsverfahren in zwei verschiedenen Foren durchlaufen haben. Italien und Österreich, Deutschland und Spanien, Frankreich und Ungarn und so weiter. Die Wahrnehmung der fehlenden Neutralität, der fehlenden Äquidistanz eines mononationalen Richters führt dazu, dass der Streit von Richtern aus mehreren Ländern ausgetragen wird. Jeder Elternteil greift eilig nach seinen eigenen Richter. Und schon ist ein Elternteil versucht, das Kind umzusiedeln, um einen Staat zu entfliehen, dessen Richter ihm möglicherweise feindlich gesinnt sind und um auf dem Gebiet des Staats Zuflucht zu suchen, dessen Richter wohlwollender sein werden. Internationale Entführungen, wie viele brasilianische, türkische oder russische Mutter verlassen mit ihren binationalen Kindern die Schweiz oder Frankreich oder Italien, um sich in den Orbit der Behörden ihres Herkunftslandes zu begeben. Die Kosten, die sich aus einer internationalen Entführung ergeben, sind kolossal. Manchmal sind mehr als 50, sogar 100 Fachleute damit beschäftigt, oft vergebens. Konsulate, zentrale Behörden, Polizeibehörden, Rechtsanwälte, Richter, Kinderpsychologen und so weiter. Die Richtlinie erwähnt darüber hinaus die schnellere Beilegung des Konflikts. Bei gleicher Qualität ist eine schnellere Lösung eine bessere Lösung. Ein Konflikt, der sich hinzieht, ist ein Konflikt, der tiefere Spuren hinterlässt, schwerere Traumata. Manchmal vergessen wir, dass unsere irdische Existenz nicht ewig währt. Wir sind hier nun nur auf der Durchreise. Ich habe eine Freundin, die immer wieder sagt, Life is just a ride. Sich in einen langwierigen Rechtsstreit zu verstricken, ist nicht in unserem wohlverstandenen Interesse. Die Lektüre einiger Urteile offenbart, dass die Eltern eines Kindes sogar 13, manchmal 15 Jahre lang um das Sorgerecht gekämpft haben. Das Kind wird in der Zwischenzeit zum Erwachsenen. Die Zeit, die Richter und Anwälte brauchen, um ihre Arbeit zu erledigen, hält die Biologie nicht an. In drei Fällen, in denen ich in den letzten Jahren konsultiert wurde, verstarb eine der Parteien während des Verfahrens. Eines dieser Verfahren lief bereits seit mehr als 4 Jahren, ein anderes mehr als 10 Jahren. Manchmal sind es durch Konflikte an gesammelten Spannungen und Stress, die das Lebensende beschleunigen. In einem dieser Fälle konnte der Arzt des Verstorbenen nicht ausschließen, dass der Herzinfarkt durch die anhaltenden Spannungen begünstigt wurde. Verschlechterung der Gesundheit von Konfliktparteien, es soll mehr davon die Rede sein. Die Richtlinie nennt auch die Wahrung einer wohlwollenden und zukunftsfähigen Beziehungen. Soziale Verständigung ist eine Voraussetzung für den sozialen Frieden. Und der sozialen Frieden ist wiederum das oberste Ziel der Organisation des gesellschaftlichen Lebens. Also die Aufrechterhaltung einer harmonischen Beziehung ist in vielen Situationen grundlegend. Dies ist innerhalb einer Familie besonders wichtig. Sagt man nicht von einem Kind, dass er ein Schwamm ist, une éponge. Wenn es seinen Eltern gut geht, geht es ihm gut. Wenn es seinen Eltern schlecht geht, geht es ihm schlecht. Die Betonung der Trennung zwischen dem Interesse des Kindes, das vorrangig sei, und dem Interesse der Mutter oder des Vaters, das zweitrangig sei, überzeugt mich nicht mehr so ganz. Die Trennung der Eltern ist ein Trauma für die Kinder, weil sie ein Trauma für die Eltern ist. Dann gilt es zu retten, was zu retten ist. Wie in einem Krieg versucht das humanitäre Recht zu retten, was zu retten ist. Zivilisten, ihre Häuser und die am meisten gefährdeten Menschen. Die Aufrechterhaltung der Beziehung zwischen den Eltern wird für die Kinder immer wichtig sein, sogar wenn die Kinder erwachsen sind. Die Eltern, meine Ehefrau, haben sich vor langer Zeit getrennt. Es war hart für sie, es war hart für ihre drei Geschwister, die heute zwischen 30 und 40 Jahre alt sind. Es gelang den Eltern jedoch, eine freundliche, ja sogar freundschaftliche Beziehung zu bewahren. Ihre Kinder, darunter meine Frau, profitieren davon. Ihr Enkel Leonardo profitiert davon. Die Aufrechterhaltung einer harmonischen Beziehung ist auch wichtig zwischen Geschwistern, die gemeinsam erben. Ist das nicht die Erfüllung des ersten, letzten Willens ihres Vaters oder ihrer Mutter? Die meisten Menschen wünschen sich nicht, dass ihr Ableben zu einer Verschlechterung der Beziehungen zwischen ihren Angehörigen führen wird. Sie fürchten den Zerfall ihrer Familie. Die Perspektive nach mir, die Sintflut, ist nicht attraktiv. Sie sind auch nicht begeistert von der Vorstellung, dass ein Teil ihrer lebenslangen Ersparnisse dazu dienen wird, den Streit zwischen ihren Verwandten zu finanzieren. Wenn sie ahnen, dass es so sein wird, wenn sie vielleicht nicht in Frieden ruhen, ihr ewiger Schlaf wird dadurch gestört. Und auch unter Nachbarn ist die Wahrung einer gewissen Herzlichkeit in Beziehungen wichtig. Streitigkeiten zwischen Nachbarn können schrecklich sein. Häufig reden streitende Nachbarn nicht mehr miteinander. Sie versuchen, sich nicht im Treppenhaus zu treffen, was zu sinnlosen Freiheitsbeschränkungen führt. La prise de conscience, je passe maintenant au français, la partie française sera plus courte, rassurez-vous. La prise de conscience des bienfaits de la médiation est là, me semble-t-il. Elle a conduit les législateurs à promouvoir la médiation. En Italie, une loi de 2012 a introduit la médiation obligatoire dans beaucoup de domaines, des assurances aux successions. Objectif, ridurre l'alto livello del contenzioso civile e promuovere il ricorso a procedure extrajudiziali. Chose intéressante, c'est une loi pour la relance de l'économie qui s'en est chargée. Favoriser la médiation est conforme à une gestion saine des finances publiques. En France, la loi de programmation de la justice de 2018-2022 aspire, je cite, au développement de la culture du règlement amiable des litiges. Les Nations Unies, on en a parlé tout à l'heure, ne sont pas en reste. En 1958, l'ONU s'était donné une convention en matière d'arbitrage. L'idée était d'encourager le commerce international. Si vous êtes CIO d'une entreprise suisse et que vous exportez des montres en Chine, vous ne souhaitez pas que dès l'apparition des premières difficultés, votre partenaire chinois puisse courir le premier vers le juge chinois. Clause arbitrale. Tribunal arbitral nommé ensemble par les parties, gage d'équidistance géographique et culturelle. Mais attention, cette clause arbitrale est aujourd'hui souvent assortie d'une clause de médiation, ce qui veut dire que ce sont les opérateurs économiques eux-mêmes qui se réclament de la médiation comme mode primaire de résolution de leur éventuel litige. Si bien que les Nations Unies en ont tiré les conséquences. En 2019, l'ONU a adopté une convention sur les accords de règlements internationaux issus de la médiation. Préambule, parce que les préambules, il faut les lire. Consciente de l'utilité que présente la médiation en tant que modèle de règlement amiable des litiges. Encore, convaincue, ce sont les Nations Unies qui sont convaincues que l'adoption d'une telle convention contribuerait à l'harmonie des relations économiques internationales. Harmonie des relations économiques internationales, on constate ces jours-ci à quel point cette harmonie, si perturbée par la guerre en Ukraine, est à la fois précieuse et fragile. Millions de personnes à risque alimentaire. Fazit, reconnaissance à la fois sur le plan national, européen et international, reconnaissance en tout cas progressive des bienfaits de la médiation. Je citerai en deuxième progrès que l'on peut observer depuis quelques dizaines d'années, professionnalisation des médiateurs et des médiatrices. On en a parlé juste avant mon intervention. Cette professionnalisation me paraît une très bonne chose, car votre profession mobilise beaucoup de savoirs différents. Alors, je n'ai pas consulté les programmes de formation. Je pense qu'il faudrait inclure en module en droit, en module en politique publique, en module en finances publiques, en module en anthropologie sociale et culturelle, en psychologie et aussi probablement en médecine et en histoire des religions. Des connaissances en théologie sont également en atout. Ce clin d'œil est pour Stéphane. Peut-être je suis trop ambitieux, mais formation interdisciplinaire, s'il en est une. Je viens aussi, troisième progrès, on en a parlé tout à l'heure. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, spécialisation et même sectorialisation. La médiation mobilise des savoirs sectoriels, médiateur et médiatrice en matière familiale, médiateur pour les relations de travail, qui devrait connaître le droit du travail, mais aussi les pratiques, les sensibilités qui se jouent dans le milieu du travail, médiateur en consommation. La plateforme, il y a une plateforme européenne sur le règlement des litiges en ligne qui date de 2006, de 2016, pardon, qui propose des organismes de médiation spécialisés dans le secteur concerné. Ce qui veut dire que des organismes se chargent de la médiation entre les parties en contrat de voyage, par exemple, et d'autres organismes, des organismes différents, sont spécialisés dans la médiation entre les concessionnaires et les acquéreurs de voitures. Chose intéressante. Alors, si beaucoup a été fait, clairement, beaucoup peut encore l'être. Je pense que la sensibilisation aux bienfaits de la médiation devrait se poursuivre. Je pense qu'il faut davantage de recherches, y compris universitaires, sur les bienfaits de la médiation pour convaincre davantage. On pourra peut-être revenir pendant le débat. Je voudrais ici, j'ai encore quelques minutes, citer ce qui me paraît être quelques obstacles à l'essor, à un essor plus rapide, plus appuyé, plus intense encore de la médiation. En premier obstacle, tient, mesdames et messieurs, à ce que les conflits sont lucratifs pour quelques catégories professionnelles, intérêts corporatifs à ce que les choses n'avancent pas, en tout cas pas trop vite. Cicéro disait, Mors tua, vita mea, ta mort est ma vie. Il m'arrive, mesdames et messieurs, de rendre des consultations dans des affaires qui sont tout aussi terribles pour les protagonistes qu'elles sont rémunératrices pour moi-même. L'année dernière, petit exemple, l'année dernière, j'avais besoin, moi et mon épouse, qui d'ailleurs m'écoute, nous avions besoin d'une nouvelle voiture. J'ai dit à mon épouse Adriana, tu vois, maintenant, j'aimerais bien qu'on me sollicite en avis de droit. Mon vœu a été aussitôt exaucé, une étude d'avocat me contacte en urgence. Un oligarque kazakh, proche du pouvoir, probablement proche de Poutine, veut divorcer de son épouse russe. Ils vivent entre Genève et Astana. Son épouse va jusqu'à craindre que son mari la fasse assassiner. Il ne va pas dans la dentelle. Elle saisit le tribunal de Genève pour découvrir que lui, il a déjà saisi antérieurement le tribunal kazakh. Question de litispendance. Et c'est pour ça que j'ai été contacté. Bien, si le divorce de ces gens n'avait pas avait été à l'amiable, je n'aurais pas eu cet argent pour me payer une nouvelle voiture familiale que je n'ai toujours pas achetée parce que je n'ai toujours pas été payé. Je suis moi aussi, fazit, je suis moi aussi partie de cette industrie du conflit. Les gagnants de la guerre russo-ukrainienne sont les fabricants du matériel de guerre. Le Conseil fédéral veut conserver ce qui reste de la neutralité de votre beau pays et refuse l'envoi des armes en Ukraine. On découvre cependant que beaucoup d'armes de fabrication suisse circulent dans le monde, y compris sur le territoire ukrainien. On a pu lire sous la plume de certains spécialistes en géopolitique que les gagnants de la guerre en Europe sont les Américains ou les Chinois. Je précise, je n'aime pas cette façon de présenter les choses. Faut-il réellement croire que la maman américaine ordinaire se réjouit de la détresse de la maman ukrainienne ordinaire? Mais il est vrai que certaines entreprises américaines voient leurs profits augmenter, producteurs du gaz naturel liquéfié, du gaz de schiste peut-être aussi, de blé, etc. Alors, Peut-on s'attendre des avocats qui font du contentieux, des conseils qui font des expertises à produire devant les tribunaux, qu'ils s'engagent activement à promouvoir la médiation? N'est-ce comme s'attendre d'un fabricant de lunettes qu'il s'engage dans une campagne de prévention contre la myopie? Quid des juges? Parce que je sais qu'entre vous, qui nous écoutez, qui m'écoutez, il y a aussi des juges. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les associations de magistrats, je pense à la France, s'opposent à des suppressions de postes résultant de la diminution des litiges. Car parfois, les réformes qui introduisent la médiation, sous l'angle de la réduction de la litigiosité, ont plutôt bien fonctionné. En France, baisse depuis 5 ans environ de 20%, c'est beaucoup, du contentieux dans les relations de travail. Il est cependant des décisions de justice qui frappent par leur humanité. Je me permets de citer deux jugements, l'un et l'autre rendus par des juges britanniques. Dans l'un de ces jugements, on lit ceci, « Le plus tôt, je cite, le plus tôt les parents avec leurs avocats déposeront les armes et parviendront à trouver d'autres manières d'exercer leur responsabilité parentale, le mieux ce sera pour tout le monde. » C'est le juge qui le dit. Dans un autre contentieux financier, celui-là, un juge britannique est allé jusqu'à implorer monsieur et madame de s'asseoir autour de la table et de se mettre d'accord. Je me permets de citer en passage de ces décisions que j'aime beaucoup en langue originale. Phenomenal costs are being spent. A phenomenal amount of court time worldwide has already been taken up and very long delays are in contemplation. Sooner or later, they need to sit down and discuss money. I implore them to do so before this appalling litigation gets yet further out of control. Les décisions britanniques sont plus humanisées, plus humaines que les décisions suisses et les décisions allemandes moyennes, par exemple. Style judiciaire très différent. J'en viens, j'ai encore quelques minutes, j'en viens en deuxième obstacle. Chez les juristes, les professeurs de droit, qui sont des influenceurs du droit, nous ne faisons pas le droit, mais nous influençons la production de droit. Eh bien, chez nous, les juristes, les professeurs, est répandue l'idée selon laquelle le triomphe du droit, c'est dans la décision de justice. J'ai des collègues à l'Université de Genève qui enseignent que le triomphe du droit international, c'est dans le procès devant la Cour internationale de justice, alors que la saisine de la Cour de la Haye est vécue souvent comme un acte inimical par l'État qui est assigné en justice. Ce n'est pas tout à fait ces relations de bon voisinage dont parle la Charte des Nations Unies. Droit pénal, on insiste sur la prévention générale, mais à l'université, on se prend à enseigner le droit pénal à partir du moment où une infraction a été commise et dans la perspective du procureur en charge de la poursuite ou du juge en charge du procès. Droit des contrats. J'étais il y a quelques jours en une conférence, une collègue spécialiste suisse des droits des contrats, en un moment donné, pendant son foretrack, dit « ce serait le juge qui reconduira le contrat à l'équité ». J'ai pensé « pourquoi il me parle du juge ?» Droit international privé, c'est ma matière. On se gargarise de l'intérêt de l'enfant, mais on le présente à travers le prisme des décisions de justice. Mes propres diapositives, les diapositives de mes cours, sont truffées de mentions ATF. ATF, c'est arrêt du tribunal fédéral. CJUE, arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. CEDH, Cour européenne des droits de l'homme. Seulement, les enfants protagonistes de ces affaires-là, que je cite, ont subi des années de procédure, ce qui est contraire précisément à leur meilleur intérêt que j'illustre à travers cette décision. C'est quand même contradictoire. Il faut dire que le rôle du procès, comme laboratoire de clarification d'une règle, n'est pas à surestimer, mais il n'est pas à sous-estimer non plus. Et là, donc, j'apporte en bémol à ce que je viens de dire. Une nouvelle loi, toute nouvelle loi, crée inévitablement des incertitudes. Pensons aux nombreuses incertitudes soulevées par les mesures anti-Covid. Et donc, les ATF, les arrêts du tribunal fédéral, sont importants pour trancher ces incertitudes. Pourquoi? Parce qu'en tranchant ces incertitudes objectives, ces arrêts préviennent le retour des mêmes litiges. Ce qui veut dire que les décisions de justice s'inscrivent, elles aussi, dans une démarche de prévention. C'est comme si une certaine dose d'affaires contentieuses était nécessaire pour concourir au progrès du droit et à la vie en société. Un peu comme les maladies qu'attrape Leonardo, mon fils, celles qu'il attrape aujourd'hui renforcent son système immunitaire et l'empêcheront de retomber malade demain, on espère en tout cas. C'est ce que j'appelle parfois la biologie, le développement biologique de l'ordre juridique. J'en viens à une dernière réserve que suscite parfois la médiation. Peut-être c'est la plus importante. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, existe un raisonnement du type suivant. Si une autorité publique n'est pas là, si une autorité n'est pas là, une partie ne serait-elle pas tentée d'abuser de sa force pour imposer sa solution du conflit à l'autre partie? Les relations humaines, il faut le reconnaître, sont assez souvent asymétriques. Il y a une partie plus forte et une partie plus faible. Hommes, femmes, employeurs et employés, grandes entreprises et petites entreprises. Je me permets de prendre un cas sur lequel Stéphane a travaillé, enfant suisse et algérien enlevé par le père algérien, de Suisse vers l'Algérie, père teigneux sinon menaçant, peut-être violent, Stéphane nous précisera. En juge, aussi parce qu'il peut intimider le père en tant qu'autorité, n'est-il pas le meilleur garant d'un équilibre des forces, de l'équité du processus? La maman, dans cette affaire, la maman qui résidait en Suisse, a été presque contrainte à accepter un compromis humiliant, point d'interrogation. Le compromis consiste en ceci, que la fille, qui pourtant avait vécu avec elle en Suisse, grandisse à titre principal en Algérie, en échange de quoi la maman pourra passer quelques semaines avec elle par an en Suisse. Or, une vraie justice internationale aurait probablement reconnu le droit de la mère de vivre avec la fille en Suisse. Sauf cette justice internationale, aujourd'hui, elle n'existe pas. Le résultat favorisé par cette médiation-là a été certes plus modeste, même s'il est certainement meilleur que la rupture de tout contact entre la mère et la fille. J'aimerais bien aborder un tout dernier point. En vitesse, j'ai évoqué l'existence de catégories professionnelles qui vivent des conflits, les avocats qui font du contentieux, les professeurs de droit qui font des avis de droit, les arbitres qui tranchent en tant que juges privés. Eh bien, ne faudrait-il pas intégrer les médiateurs et les médiatrices? Ne faites-vous partie de cette industrie du conflit? Monsieur Auerbach m'a autorisé à vous challenger, c'est le mot qu'il a utilisé. La médiation, avons-nous dit, intervient lorsqu'un différend a pris naissance. Le but est d'abord d'en prévenir l'escalade, l'intensification. C'est un but très noble. Il s'agit d'un mode alternatif de solution, justement, des différends. Alors, ne vaudrait-il mieux que le conflit soit prévenu, qu'il ne surgisse même pas? Je prendrais une médiation entre époux qui veulent divorcer. Si médiation il y a, c'est que le conflit est là, au moins au stade embryonnaire. Si le conflit est là, une partie du mal est là. Il faut bien sûr prévenir la prolifération du mal. Un conflit entre parents, même résolu grâce à une médiatrice, laisse tout de même au risque de laisser tout de même quelques marques chez les enfants. L'expérience d'une grossesse non désirée et que l'on se résout à interrompre est traumatisante. Il vaut mieux intervenir en amont pour la prévenir, histoire d'éviter d'avoir à intervenir, ne serait-ce qu'en stade embryonnaire. Conflit russo-ukrainien, on espère toutes et tous, une issue diplomatique, fruit d'une médiation, des bons offices, peut-être de la Suisse, mais d'énormes tragédies auront été consommées. Une guerre, il vaut mieux la prévenir qu'avoir à y remédier lorsqu'elle est en cours. Je pense que les médiateurs et médiatrices devraient aussi s'engager, peut-être plus qu'ils ne le font ou qu'elles ne le font maintenant, dans la prévention de la naissance des conflits. Comment? Sensibilisation dans les écoles, dans les universités, dans les milieux du travail. Celles et ceux qui sont spécialisés en médiation commerciale pourraient se charger des modules au sein des autres écoles de gestion, d'économie, et apprendre aux futurs chefs d'entreprise l'intérêt de développer la culture des relations commerciales et des relations de travail harmonieuses. Depuis quelques années, on voit fleurir la figure de Chief Happiness Officer. Et les spécialistes en médiation familiale que vous êtes, eh bien, vous pourriez intervenir dans des cours de parentalité. Il faudrait rendre presque obligatoires ces cours. Donc, médiateurs et médiatrices qui élargiraient l'éventail de leurs compétences, non plus uniquement résoudre les conflits, mais œuvrer pour les prévenir. Je suis conscient que c'est déjà le cas. Hier, sur la première page de la Tribune de Genève, Caritas propose une médiation, c'est comme ça qu'on l'appelait, médiation, pour apprendre aux familles suisses à vivre avec les réfugiés ukrainiens qu'elles accueillent, démarche de prévention. Il faudrait, je pense, accompagner cette mouvance. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.
Alors, je te remercie beaucoup, Gianpaolo, pour cette conférence très, très riche, très inspirante, qui ouvre certainement beaucoup de questions et qui invite au débat. Je passe la parole à Béatrice, peut-être avant qu'on ouvre le débat à tout le monde. Béatrice.
Auch ich möchte mich ganz herzlich für diesen äußerst spannenden Vortrag und die Denkanstöße, die ich dadurch erhalten habe, bedanken. Und sicher nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen. Und ich möchte gerne das Forum auftun und die Fragen, die sich Ihnen auch gestellt hat, gerne an Herrn Romano zu stellen oder Denkanstöße oder Anregungen, das, was Ihnen jetzt durch diesen äußerst spannenden Vortrag durch den Kopf gegangen ist. Bitte.
Also ich erlaube mich, das Wort zu ergreifen, als Erste. Ganz grundsätzlich mal, ich fand es sehr schön, dass Sie auch noch auf Italienisch gesprochen haben. Es gibt eine zweite Silvia, das schreibt sich auch mit Gian, ne? Die auch Romanisch spricht, also wir sind beide rätoromanische Muttersprache. Es hat mich sehr angeregt, diese als Familienmediatorin natürlich die Normen und Regeln, die man auch zwischen einem Mann und einer Frau, also Eltern und Kindern, natürlich altersgerecht aufzustellen hätte. Ich habe jetzt gerade eine Krisenmediation. Nach diesem Vortrag werde ich dann Kontakt aufnehmen müssen mit den Medianten, die in einer extrem schwierigen Situation sind. Und wenn Sie sagen, dass wir so quasi in der, wie haben Sie das gesagt? Also wir sind als Mediatorinnen so quasi im Geschäft mit dem Konflikt. Das gibt mir schon so zu denken. Wie schaffen wir es als Mediatorinnen auch auf diese andere Ebene zu gehen mit der Prävention? Hier in Bern haben Sie heute in der Zeitung, werden Sie für 1000 Familien ein Container Wohndurchgangsheim errichten. Und ich denke, da ist eine Chance. In unserer Siedlung werden wir eine Wohnung zur Verfügung stellen. Und ich habe mich eben auch angeboten zu schauen, dass wir hier in der Siedlung untereinander in nachbarschaftlicher Zusammenarbeit oder Zusammenleben gut verstehen werden. Ja, das Geschäft mit der Mediation, also das hat mich schon ein bisschen angeregt, weiter zu denken. Fragen spezifisch habe ich jetzt keine, aber das war mir jetzt wichtig zu erwähnen, dass das schon zum Denken und zum Weiterdenken und zum Kreieren neuer Formate angeregt hat.
Vielen Dank. Dann möchtest du es kurz auf Französisch zusammenfassen, selber, was du gesagt hast?
Ok, d'accord, je voulais juste dire, pas en revanche. Si vous êtes deutsch et français, c'est bon. Alors, en français, alors moi je vous disais que ce qui m'a vraiment touchée, c'est bien, qui me fait penser et réfléchir, c'est d'être comme médiatrice par oui, des fois. Les termes en français me manquent.
L'industrie du conflit, hein,
c'était ça. Oui, l'industrie des conflits, hein, d'être dans ce domaine que nous, comme médiatrices, on profite des conflits et qu'il faut vraiment que la conférence de vous, Giancarlo Romano, me donne des impulses pour voir plus loin et de dire comment est-ce qu'on pourrait être comme médiatrice aussi, de travailler dans la prévention. C'est plus ou moins ce que je disais, hein, je pense. Ok, merci.
Gibt es weitere Wortmeldungen, Ideen? Vielleicht können wir ein bisschen sammeln, hein, bevor on va collecter un peu les commentaires avant que Gianpaolo va peut-être réagir.
Forse mi posso permettere di dire due parole in italiano come rappresentante del Ticino, unica rappresentante del Ticino oggi. Vi devo lasciare purtroppo fra 5 minuti perché ho una mediazione. alle 6 del venerdì sera. Dunque devo partire. Volevo veramente ringraziare il professor Romano per questa conferenza interessantissima, per le parole spese in italiano. Spero che potremo diffondere la registrazione e arrivare fino in Ticino con queste parole. Volevo ringraziare semplicemente con due parole e vi lascio adesso, lascio la conferenza, purtroppo seguirò poi le risposte e il dibattito una volta terminato, quando ci sarà la registrazione a disposizione. Ringrazio tutti per la vostra presenza e ringrazio il professor Romano per la conferenza. Grazie. Arrivederci.
Arrivederci, grazie, a presto.
Arrivederci, a presto.
Ja, also ich, wenn ich vielleicht als Zweiter etwas sagen darf, ich bin auch am Überlegen, was du, diese Herausforderung, wie die Mediation nicht Teil des Business wird, das mit dem Konflikt wirklich vom Konflikt lädt, sondern wie die Mediation die Verhärtung, die Verschärfung des Konfliktes verhindern kann, wie die Mediation da eine Rolle spielen kann. Und in diesem Zusammenhang würde ich dich gerne fragen, was du für eine Meinung hast zum Thema der angeordneten Mediation, de la médiation ordonnée. Die angeordnete Mediation ist ja etwas, was in einem frühen Stadium kommt und nicht im Stadium, wo vielleicht schon ein Gerichtsverfahren jahrelang hängig ist und dann irgendwann noch später eine Mediation gemacht wird. Einige von uns sind vielleicht auch diese angeordnete Mediation unterstützen und fördern. Wir hoffen, dass wir dann eben in einem frühen Stadium des Konfliktes und der Spannungen die Menschen schon zu uns kommen in die Mediation und dass wir dadurch dann eben auch viel präventiver auch arbeiten können. Also der Konflikt ist ja nach Glasl auf einer Skala von Eskalation. Und wenn wir sehr früh in einem Konflikt natürlich einen Konflikt bekommen als Mediatoren, ist es umso besser für die Mediation. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen. Donc ma question était autour de l'observation que le conflit est sur une échelle d'intensité et que la médiation ordonnée, qui est un grand débat en Suisse, est quelque chose qui pourrait permettre de prendre le conflit très en amont et très précocement. Et que je voulais savoir l'avis de Gianpaolo Romano par rapport à cette médiation ordonnée qui pourrait peut-être être une réponse à cette question. Est-ce qu'on est parti de l'industrie du conflit ou est-ce qu'on est parti d'une prévention, d'une escalade du conflit?
Donc, je peux...
Excuse-moi, Gianpaolo. Tu permets que Chilja Karac et Romanch va encore...
Est-ce qu'on collectionne les questions ou parce que sinon je réponds volontairement.
Je propose de collectionner un petit peu.
D'accord, ok. Donc, bonjour à tous. Je voulais simplement dire à quel point j'étais heureuse aujourd'hui de pouvoir assister à cette assemblée qui rend hommage à Tilja Shorta. Et d'entendre cette conférence qui est vraiment dynamisante et qui pose plein de questions et on a besoin... vraiment de ce type de réflexion et de provocation. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappée, c'est à quel point, professeur Romano, et ça fait écho aussi aux discussions qu'on a déjà depuis quelques années, qu'on parle de l'interdépendance des choses et des gens, et comment justement, comment vous avez tracé ces différents cercles pour arriver à l'individu, mais l'individu qui reste interdépendant avec tous les autres individus dans toutes sortes de cellules de la vie privée et de la vie publique. En société. Voilà, en société. Et donc, ça, c'est un aspect qui me fascine beaucoup et dont on parle de plus en plus. Et c'est aussi dans ces aspects-là que maintenant naissent un peu des solutions ou des solutions imaginées par des collectivités publiques quand ils mettent en œuvre, par exemple, des pilotes interdisciplinaires. Je vous ai entendu citer l'interdisciplinarité. Je ne suis pas sûre qu'on puisse former en interdisciplinarité, mais je pense qu'on peut exercer l'interdisciplinarité. Et donc, peut-être un moyen de prévention, ça répond un peu, ça anime un peu le débat aussi à la question de Stéphane, c'est de poser la question, est-ce que dans des pilotes interdisciplinaires qui vont vers les séparations familiales ou dès le début, en fait, les tribunaux orientent vers la médiation ou vers l'accompagnement à la coparentalité, comme le font plusieurs cantons, entre-temps, Bâle, Valais, Vaud commence, Berne, de ce que j'ai entendu, il y a aussi un pilote à Zurich, je crois à Steff, ou à, je ne sais plus, dans une des communes, dans un des districts zurichois. Et est-ce que ça, ce n'est pas une manière de prévenir la cristallisation du conflit, parce qu'il y a ce conflit qui est lié à la séparation et qui est normal. Et ce qu'on essaye de prévenir, c'est qu'il se cristallise pour entrer dans des formes de haut conflit, n'est-ce pas? Et donc, je voulais peut-être ajouter tout simplement ça. Et comment vous observez en tant que juriste du droit civil, parce que c'est quand même des procédures adaptées, n'est-ce pas, du droit civil, qui créent en fait la possibilité d'une telle mesure préventive.
Gilja, kannst du dich selber übersetzen?
Okay. Ich würde dire que le professeur Romano parle romanche. Enfin, il, en tout cas, il le comprend et je crois même qu'il m'a déjà parlé en romanche. D'accord. Ich wollte nur kurz sagen, dass es mich sehr berührt hat, diese Abhängigkeit, die wir alle haben zwischen Menschen. Und wenn wir auch das öffentliche Leben auf uns selber im Endeffekt reduzieren, wir sind immer in Beziehung mit Menschen, sei es im öffentlichen oder im privaten Leben. Und ich fand die Erwägungen von Professor Romano sehr interessant und wollte eben fragen, ob die Mediation als Präventionsmodell innerhalb interdisziplinärer Piloten, kantonaler Piloten, vielleicht eine Antwort sind und wie er als Jurist diese adaptierten Prozeduren, wo plötzlich das Gericht die Kinder vor der ersten Audienz hört und dann direkt in die Prävention, in die Mediation schickt oder in eine Begleitung à la coparentalité, was er davon hält. Und ich wollte auch sagen, dass ich besonders glücklich war, an der heutigen Sitzung teilzunehmen, die Silja honoriert und bedankt für ihre fantastische Arbeit über alle diese Jahre.
Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole à ce stade?
Also mir hat so sehr gefallen, der Gedanke, schon im Vorfeld einzugreifen, dass wir eigentlich da bemüht sein sollten, auch die Verhinderung einer Entstehung vom Konflikt uns dazu einsetzen sollten. Da kam mir der Gedanke, ich komme von der sozialen Arbeit her, dass da sagt man, gute Sozialarbeit ist, wenn es uns nicht mehr braucht. Das scheint noch immer nicht erreicht zu sein. Im Gegenteil, es wird eigentlich immer schlimmer. Es gibt auch viele Profiteure daran und ich hoffe, es wäre zu wünschen, den Mediatorinnen würde das besser gelingen als den Sozialarbeitenden. Das wäre wirklich, wirklich sehr hilfreich, auch für die soziale Arbeit. Hätten wir definitiv weniger zu tun. Kannst du das ein bisschen übersetzen, Stefan? Ich kann das zu wenig.
Je n'étais pas très aufmerksam gerade. Mais j'essaie. Donc, tu espères que les médiateurs, ce n'est pas comme les assistants sociaux. Donc, le travail social avait cet espoir de servir et disparaître, n'est-ce pas? De ne plus être nécessaire. Et un bon travail social, c'est quand on n'a plus besoin. Et elle se pose la question si, avec la médiation, est-ce qu'on est dans la même direction? Parce que le travail social, il est toujours là et c'est de pire en pire, on a de plus en plus besoin. On n'a pas réussi en travail social de nous rendre, de disparaître. Et c'est un peu ça ce que tu te poses comme question, si la médiation, elle est dans la même tendance, si j'ai bien compris. Gibt es sonst noch Input? Sonst würde ich vielleicht vorschlagen, dass du, Gianpaolo, jetzt einmal diese verschiedenen Wortmeldungen aufnimmst und wir hören, was du dazu denkst. Ça vous convient? Gianpaolo.
Très bien. Alors, déjà, le deal que j'ai conclu avec Stéphane, c'est qu'il me permet de répondre en français. Si ça vous convient, parce que si on fait à la façon suisse, c'est-à-dire chacun parle sa langue et suppose que les autres puissent comprendre, ça simplifie beaucoup les choses. En tout cas, je vais essayer de parler de manière relativement claire et distincte, déjà pour vous remercier pour les commentaires, le partage d'expérience que vous avez, que vous venez de m'adresser, et plus, aussi plus généralement de l'opportunité que vous me donnez d'intervenir devant vous, hein, parce que c'est vous finalement les experts du terrain. Moi, je suis un observateur un peu distant. Je préfère avoir aussi en réalité une expérience des hommes et des femmes, hein, plutôt que de m'enrichir à travers la lecture de livres uniquement. Donc, je suis pour en droit humanisé. J'ai d'ailleurs publié récemment un long article pour une théorie humanisée du droit international. Je pourrais te l'envoyer à Stéphane. Ça concerne beaucoup le droit international de la famille. Ceci entre parenthèses. Alors, je prendrai les quatre interventions l'une après l'autre. J'ai été provocateur quand j'ai dit « vous faites partie de l'industrie du conflit ». Alors, c'est à la fois vrai, mais c'est aussi une nécessité. Je ferai en parallèle avec la médecine. On a besoin de personnes. Moi, je suis malentendant et j'ai besoin d'ici 3 semaines que quelqu'un m'opère à l'oreille pour changer la batterie de mon Hörimplantat. J'ai pris contact avec le médecin. J'ai mis en concurrence 2 médecins, un de Bâle et l'autre de Rome. Les prix sont différents. J'ai vu qu'il y avait une rivalité entre les deux. Mais en tout cas, la médecine travaille à la fois à soigner et à prévenir. Le vaccin que nous avons pris pratiquement tous, j'imagine, ou quasi toute personne pour le Covid, travaille à prévenir. Par contre, il y a aussi des médicaments qui visent et sont très importants à soigner le Covid une fois qu'il est là. Hein. Au départ de la pandémie, il y a 2 ans, d'abord, on s'est focalisé sur les soins. On a commencé un parallèle à la fois à développer en vaccin pour prévenir, pour empêcher que d'autres personnes tombent malades, mais aussi, c'est en parallèle, on a essayé, à travers le développement de médicaments, de soigner. Donc, on a besoin, évidemment, comme on a besoin de médecins qui soignent, on a besoin de médecins qui préviennent, ou de chercheurs qui préviennent. On a besoin de personnes qui préviennent les conflits et on a besoin de personnes qui tâchent de les résoudre. Donc, il ne faut pas vous sentir, je pense, trop coupable, surtout que la médiation vise, et ça c'est très important, vise à éviter la dégradation ultérieure des relations humaines. Et je me rattache à ce que disait Stéphane, et c'est très important, d'étudier le phasage ou le séquençage d'un conflit. Un conflit, il devrait être étudié. On ne le fait pas très souvent. Moi, j'ai essayé de lire un petit peu la littérature pour voir s'il y a quelqu'un qui fait le séquençage et qui distingue conflit à basse intensité, conflit à intensité moyenne, conflit à haute intensité. Je n'ai pas trouvé de définition, je n'ai pas cherché non plus pendant des semaines, mais je n'ai pas trouvé de définition de ces différentes phases du conflit. Et donc, toute intervention dans une phase précoce qui vise la dégradation du conflit est bonne à prendre. C'est un peu comme quelqu'un qui atteint en stade précoce d'un cancer. Bon, heureusement qu'il y a des spécialistes qui empêchent la prolifération du mal. C'est tellement précieux. Si vous êtes atteint d'un cancer et que, à travers des médicaments ou à travers une opération, vous pouvez vivre encore 4 ou 5 ans, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc, séquençage du conflit, toute intervention qui vise à éviter en empirement une dégradation des choses est très importante. Pensez encore une fois à la guerre. Moi, je me suis un petit peu intéressé, grâce aussi aux échanges que j'ai eu avec mon épouse, qui fait du droit pénal international, au droit humanitaire. Bon, le droit humanitaire, ça peut paraître curieux, il vise, la guerre, c'est déjà contre le droit international, mais il y a un droit international qui est très ancien, Convention de Genève, Croix-Rouge internationale, qui vise à éviter, à sauver ceux qui peuvent l'être, à retten was zu retten ist, was gerettet werden kann. Et ça, c'est très précieux. Ça, je tenais à le préciser. Angeordnete médiation.
Gian Paolo, si tu permets, je vais juste résumer ici.
Très bien, très bien.
Pour ne pas trop perdre le fil. Donc, also Gian Paolo dankt allen sehr für ihre Wortmeldungen. Denn wir sind die, also wir alle sind ja die Experten dieses Gebiets. Er hat einen Artikel kürzlich veröffentlicht über eine humanisierte Rechtstheorie, also den er uns auch gerne weitergibt. Er ist sehr für diese Vermenschlichung des Rechtes. Wenn er uns etwas provoziert hat, dann sagt er, wir sollen uns aber keine allzu großen Sorgen machen, denn es ist für ihn sehr wichtig, eben zu unterscheiden die verschiedenen Intensitäten des Konfliktes. Er hat dazu keine Literatur gefunden. Gian Paolo, es gibt eben diese Studien von Glasl, einem Österreicher, der diese Echelle du Conflit publiziert hat. Die kannst du mal, also dort gibt es eben Literatur zu diesem Thema. Und wenn wir als Mediatorinnen sozusagen auf dieser frühen Eskalationsstufe eben handeln, dann ist das sehr, sehr wichtig. Und er macht den Vergleich mit der Medizin, wo die Medizin ja auch einerseits präventiv immer ist und auch heilend. Und er macht einen Vergleich zwischen der Mediation und der Medizin, dass wir auf diesen beiden Ebenen spielen. Ich habe es jetzt sehr kurz gemacht damit.
C'est parfait. Très, très bien synthétisé, sehr gut zusammengefasst, vielen Dank. Angeordnete Mediation, ça c'était ta question, hein, n'est-ce pas Stéphane? Angeordnete Mediation, est-ce que la angeordnete Mediation, c'est la médiation obligatoire qui est imposée? C'est ça, hein, angeordnete, voilà. Alors, moi, ce que j'observe, c'est que les parties elles-mêmes ont un contrat, en tout cas commercial international, mais aussi parfois des contrats de mariage, ont tendance à inclure des clauses de médiation. Ce qui veut dire que les parties veulent s'obliger mutuellement avant de se lancer dans une procédure judiciaire. C'est vraiment une gegenseitige Verpflichtung. Hein? Ce sont les parties qui construisent ensemble cette obligation réciproque de ne pas tout de suite judiciariser leurs différends, de se ménager une phase. Parfois, ils indiquent même pendant 3 mois, une fois qu'il y a en différend, pendant 3 mois, les parties s'engagent à ne pas aller devant le juge. C'est très intéressant. Et ça, ce sont des clauses de médiation qui sont devenues presque des clauses standardisées dans beaucoup de contrats commerciaux internationaux. Moi, je commence à les trouver, ces clauses, dans des contrats de mariage. Contrats de mariage par lesquels, les parties règlent des questions financières, finalement. Et je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est les parties elles-mêmes qui veulent s'obliger à négocier, essayer de trouver une solution à l'amiable avant de se jeter dans une procédure judiciaire. Par contre, tu as évoqué une chose intéressante qui a été aussi mentionnée par vos collègues. La médiation peut intervenir très tôt, voilà, en stade embryonnaire, elle peut intervenir très tard. Et là, je dois dire que parfois, je me demande, alors je pense qu'en général, il vaudrait mieux, le plus tôt elle intervient, le mieux c'est. Mais parfois, je pense que c'est trop tôt pour qu'une médiation puisse avoir un résultat intéressant. Hier, j'étais pendant 2 heures dans un cabinet à Genève. J'ai rencontré madame, c'était une affaire assez triste, qui concerne le droit applicable au régime matrimonial d'un couple de Français, je modifie légèrement, de Français qui ont également la nationalité suisse, qui ont vécu en Suisse pendant 10 ans et à Dubaï pendant 10 ans. Est-ce que c'est le droit dubaïote ou est-ce que c'est le droit suisse qui est applicable? En gros, est-ce que c'est la participation aux accueils ou c'est la Gütertrennung du droit dubaïote qui est applicable? Là, je pense que c'est trop tôt pour l'instant de songer à une médiation. Parce que d'abord, il faut que les deux parties viennent sur une question essentielle, quel est le droit qui est applicable aux conséquences financières. Donc j'aurais tendance à dire le plus tôt, le mieux. Parfois, je pense que c'est trop tôt. Et voilà, je pense aussi que si on pense à la guerre en Ukraine, encore une fois, je pense que dans quelques semaines, une médiation, aujourd'hui, les choses me paraissent encore un peu précoces, prématurées. Donc, médiation qui essaye d'intervenir très tôt dans le conflit peut parfois ne pas avoir de chance de succès. Alors que quand les parties se fatiguent, y compris un peu financièrement, là, elles sont un peu épuisées, elles commencent à être épuisées, elles commencent à se dire « attention, mais le conflit me coûte, là, ma qualité de vie, elle se dégrade, là, je pourrais être prêt à entrer dans une logique de médiation parce que j'ai fait l'expérience des conséquences désastreuses du conflit. » Je ne sais pas si tu veux essayer de résumer. Ja,
also zur Frage der angeordneten Mediation beobachtet Herr Romano, dass es immer öfter in den Verträgen, einerseits in den Businessverträgen, also in Handelsverträgen, aber auch zunehmend in Eheverträgen, Klauseln gibt, wo die Parteien am Anfang sagen, falls wir einen Konflikt haben, gehen wir zur ersten Mediation. Und dass sogar es Verträge gibt, wo eine dreimonatige Sperrfrist festgelegt ist, bevor man ins Gericht geht. Das ist immer mehr Standard im internationalen Handelsrecht. Und es könnte auch, das ist eine Tendenz auch im Familienrecht. Und natürlich ist er grundsätzlich der Meinung, dass eine Mediation im frühen Stadium oft Sinn macht, aber es gibt auch Beispiele, wo es eben manchmal zu früh sein kann. Gestern war er in einer Anwaltskanzlei, wo es um die Zuständigkeit geht und das anwendbare Recht in einer Scheidung zwischen Schweizer und Dubaier Recht, wo es darum geht, ist Gütertrennung oder das gemeinsame, wie heißt es auf Deutsch, Partizipation, Sacke, Güterteil, Güter, ja, das, wo die Güter
Errungenschaftsgemeinschaft.
Errungenschaftsgemeinschaft, danke Andrea. Und diese Rechtsfragen müssen zuerst geklärt werden, bevor eine Mediation auch Sinn macht. Und dann macht er auch die Beobachtung, dass es auch, wie zum Beispiel jetzt auch im Krieg zwischen der Ukraine und Russland, dass es auch Situationen geben kann, wo die Parteien erst die Erfahrung machen müssen, wie zerstörerisch eben der Konflikt ist, wie teuer er ist, wie viel Leiden er bringt und dass sie dann vielleicht erst in einer späteren Phase bereit sind für eine Mediation.
Mhm. Parfait. Troisième question de Shilja. Tu as Shilja, je me permets de tutoyer, en précisant malheureusement que je ne parle pas romanche. Peut-être deux ou trois mots, mais enfin. Donc, tu as évoqué, tu as insisté sur l'interdépendance des êtres humains. Et c'était un concept fondamental qui m'a conduit dans mes réflexions sur une théorie humanisée du droit, notamment international, à remettre en cause cette idée de souveraineté. Parce que l'idée de souveraineté des États fait croire que nous sommes véritablement indépendants, souveraineté et indépendance. La Suisse est un État souverain indépendant. En réalité, que l'on pense à l'énergie, on risque d'être dans un blackout dans quelques années. Qu'on pense à notre alimentation, à l'alimentation de Leonardo. Alors, Ernährungsmittel, ça c'est ce qu'il y a de plus important, de plus basique. 45% de la nourriture que nous trouvons dans les étalages de la COP et de la Migros et de Denner, 45% vient de l'étranger. Alors comment peut-on, les juristes, insister sur cette idée complètement abstraite de la souveraineté et de l'indépendance si pour des exigences aussi basiques, nous dépendons de l'étranger? Donc interdépendance des hommes et aussi de ces groupements humains que sont les États. Les États sont des groupements humains, ce sont des peuples, des populations qui se donnent une organisation, ce sont des sociétés étatiques. Donc, je suis très sensible à cette interdépendance. Quand tu as évoqué aussi rapidement l'interdisciplinarité, tu veux connaître mon opinion de juriste. Alors, moi, je me plais à souligner d'abord l'essor de l'interdisciplinarité dans la formation des juges qui siègent dans les tribunaux familiaux. Tribunal sur la protection de l'adulte et de l'enfant. Alors, il y a sans doute des juristes là qui vont me corriger, mais je pense que c'est même le code fédéral de procédure civile qui prescrit une formation interdisciplinaire des trois membres qui siègent au sein du tribunal de la protection de l'adulte et de l'enfant. C'est en tout cas le cas à Genève. Siègent dans ces tribunaux de protection de l'adulte et de l'enfant un juriste, c'est le président, et deux personnes qui doivent avoir des formations autres que des formations juridiques, de sociologie, de psychologie, etc. Donc, quant aux procédures adaptées auxquelles orienteraient les tribunaux pour éviter la cristallisation du conflit, pour éviter qu'un conflit qui est à basse intensité puisse monter en puissance et en force destructrice, moi, évidemment, je suis sur le principe très favorable. Alors, il faudrait connaître le taux de succès. Et si je me permets d'adresser une petite empfehlung à votre association, c'est qu'il faudrait faire un recueil de cas où la médiation a pu intervenir. Comme nous, les juristes, nous travaillons sur des recueils de jurisprudence. Nous nourrissons d'affaires judiciaires. Alors, pourquoi une association aussi puissante, aussi influente, je pense que vous avez même des moyens, ne pourrait pas songer à rédiger un ouvrage en recueil de cas à succès, avec les différentes phases? Vous pouvez même demander aux protagonistes s'ils peuvent vous autoriser à les indiquer nommément. Hein, et s'ils ne veulent pas, bon, ce sera anonymisé comme nous le faisons. Il faut que le succès de la médiation puisse être aussi consulté tangiblement à travers des ouvrages de recueil de cas. Ça, c'est très important. Voilà. Je te laisse traduire tout ça.
Zum Thema Interdependenz und Interdisziplinarität. Ja, Chantal macht darauf aufmerksam, wie eigentlich absurd es ist, eben von Souveränität zu sprechen als Staaten, wenn wir gleichzeitig so abhängig sind voneinander. Und da gibt das Beispiel, dass wir 45% unserer Nahrungsmittel importieren, dass wir sehr eben interdependent sind als Staaten, als Menschen, wie es Cilca gesagt hat. Und er verweist nochmal auf seine humanisierte Rechtstheorie. Und jetzt zum Thema der Interdisziplinarität bringt er das Beispiel, dass bei den Genfer Gerichten, also das ist ungefähr die KESB, aber es ist eben nicht genau wie die KESB in den Deutschschweizer Kantonen, das Gericht interdisziplinär zusammengesetzt ist mit den Juge Assesseur, die psychologische oder soziologische Ausbildung haben, neben dem Gerichtspräsident oder der Gerichtspräsidenten, also die immer drei Richter, die da ein interdisziplinäres Team bilden, wobei allerdings eben die nicht juristischen Personen eben auf zweitem Niveau leider sind. Aber die Empfehlung, die er uns als Verein macht, ist die, dass wir eigentlich Fälle sammeln sollten. Fälle sammeln und publizieren sollten, wie es eben die Gerichtsfälle auch sind, Mediationsfälle bekannt machen, öffentlich machen. Und er legt uns nahe und empfiehlt uns als großem und finanzkräftigem Verein, den wir ja sind, solche Fälle zu sammeln und die Erfolge zu kommunizieren, damit dass die bekannt werden.
Très bien. Quatrième, bravo hein, pour cette traduction quasi simultanée qui est vraiment parfaite, qui me simplifie énormément les choses. C'est vendredi, j'ai eu une semaine difficile aussi à cause de mon enfant qui exige beaucoup, beaucoup d'attention. Alors, quatrième remarque qui a été intéressante, hein, servir et disparaître, hein, c'est la façon dont tu l'as reformulé en français, Stéphane. Voilà. Au sujet à nouveau de la prévention de la naissance des conflits, je pense qu'il faudrait. J'ai consulté des définitions de la médiation. Il y a des définitions dans les textes législatifs qui disent que la médiation est effectivement moyen pour prévenir, pour résoudre un conflit, moyen alternatif pour résoudre un conflit. Par contre, le terme médiation est souvent utilisé dans un contexte plus large, dans les médias par exemple. Hein, médiation entre les familles ukrainiennes et les familles suisses. Ils ne sont encore pas en conflit. C'est pour apprendre à vivre ensemble. Voilà. Donc, tout de même, une certaine Ungewissheit sur la notion même de médiation. La notion juridique dans les textes normatifs met l'accent sur la médiation comme moyen alternatif de résoudre un litige. Je ne suis pas certain que cette façon juridique de voir la médiation, qui pourtant est, disons, juristisch verankert dans les textes normatifs, correspond à la vision, disons, commune qu'a la population, le peuple, des personnes de bonne volonté de la médiation. Donc je me demande s'il ne faudrait pas élargir la notion juridique de médiation. En tout cas, pour rassurer Madame Roffel, hein, je pense que c'était vous qui avez posé la question, il ne sera jamais question du chômage généralisé des médiateurs et des médiatrices. Parce que il faut être anthropologue, encore une fois. C'est-à-dire, les différends, les conflits sont partie de la société. Parce qu'au fond, un conflit résulte de différentes opinions, et les hommes et les femmes sont libres de penser. Ils sont rationnels, ils ont une raison, et ils ont une liberté d'opinion. Et cette liberté d'opinion fait que ton opinion peut être différent de la mienne. Et donc, cela prépare, c'est encore pas en conflit. Meine Verschiedenheit n'est encore pas en conflit. C'est encore pas une Auseinandersetzung, mais c'est quand même un stade préalable dans litige véritable. Donc, il sera jamais question de prévenir tous les litiges. Impossible. De la même manière, moi, j'aime faire des parallèles avec d'autres secteurs de l'activité humaine. Il ne sera jamais question de prévenir tout accident de la circulation. Et l'activité humaine consistant à circuler en voiture est une activité très importante. Donc, vous voyez bien, l'idée, c'est de réduire le nombre d'accidents de la circulation, y compris réduire les taux d'Esfel, le nombre d'accidents mortels. Il y a eu un énorme progrès réalisé dans la grande majorité des sociétés humaines dans les 30 dernières années. Donc, réduire, les pouvoirs publics ont l'obligation de réduire, mais de les faire disparaître, non, on aura toujours besoin d'hôpitaux qui soignent les blessés de la route. C'est nécessaire. L'activité humaine produit des accidents. Un accident, c'est au fond un conflit entre deux voitures, en réalité. C'est une collision entre deux voitures. Et donc, on peut tout à fait agir pour faire réduire le nombre de conflits, tout en étant conscient qu'il y aura toujours et plus que jamais besoin des médiateurs et des médiatrices. Et il y aura toujours besoin des avocats et des avocates. Et il y aura toujours besoin des juges et des juges. Donc, il ne faut pas que les avocats s'inquiètent de l'essor de la médiation. On aura toujours besoin d'eux. Je pense que le plus la médiation se développe et le plus la médiation parvient à avoir un succès, oui, alors il y aura un peu moins besoin d'avocats. J'ai envie de dire, c'est tant mieux, c'est une marque de progrès, mais on aura toujours besoin d'avocats. Voilà, le progrès de l'humanité passe par une réduction de l'importance de certaines catégories professionnelles. Nous aurons besoin, bientôt, je pense qu'on aura des juges ou tribunaux numériques. Alors, il ne faut pas maintenant que les juges qui m'écoutent aient peur. On se fait remplacer par un algorithme. Non. Par contre, il se peut que des tribunaux numériques, des algorithmes puissent donner quelques indications en première instance notamment, puissent eux-mêmes, ces juges numériques, être choisis par les parties, ce qui aura pour effet de réduire les coûts pour les taxpayers, réduire les coûts pour les parties elles-mêmes, accélérer la solution de leurs litiges. Donc, il faut bien sûr que les sociétés utilisent les nouvelles technologies. De là à dire non, les juges disparaîtront comme catégorie professionnelle, bien sûr que non. Mais on arrivera, grâce à l'apport des nouvelles technologies, à réduire un peu la nécessité pour les êtres humains de régler les incertitudes que laisse le droit par appel aux juges qui coûtent de l'argent. J'ai dit beaucoup de choses.
Also zu dieser Frage, ja, ob die Mediatorinnen verschwinden sollten oder ob es uns nicht mehr geben sollte, hat Chantal zuerst beobachtet, eben, dass es eigentlich unterschiedliche Definitionen von Mediation gibt, dass eigentlich im Rechtswesen die Mediation sehr eng gefasst ist als eine Lösung von Konflikten, aber eigentlich im breiteren Verständnis des Publikums, der Öffentlichkeit, eigentlich Mediation auch einfach ein Zusammenbringen ist, eben zwischen Schweizer und ukrainischer Bevölkerung zum Beispiel, Intermediation, der Begriff eigentlich sehr viel breiter auch ist und er lädt uns ein, uns nicht ganz eng zu fassen, ja, nicht nur auf die juristische Definition der Mediation zu gehen und damit eben auch offen zu sein für die Tatsache, dass dass es eigentlich immer menschliche Konflikte geben wird und gibt. Das ist eine anthropologische Konstante. Und dass es aber einfach darum geht, eben die Intensität und die Dramatik der Konflikte zu verringern. Und er macht den Vergleich mit dem Straßenverkehr, wo es nicht das Ziel ist in der Regel, dass ja keine Autos mehr fahren und dass es keine Unfälle mehr gibt. Also das Ziel ist, möglichst wenige Unfälle zu haben, möglichst wenig schlimme Unfälle. Aber solange die Menschen halt auf den Straßen unterwegs sind, wird es Unfälle geben. Und so ist es mit der im Familienrecht und überall auch, dass es in diesem Sinne eben die Mediation immer brauchen wird, so wie es die Spitäler weiterhin brauchen wird. Am Schluss erwähnt er noch die Frage der Digitalisierung der Justiz und der Tatsache, dass es eben auch Algorithmen jetzt schon gibt, um Gerichtsurteile zu analysieren. Es gibt Anwaltskanzleien, die das offerieren. Und er meint aber, dass trotz allem auch die Richter nicht verschwinden und auch die Anwälte nicht. Aber er sieht es als einen Fortschritt der Menschheit, wenn es vielleicht etwas weniger Anwälte und etwas mehr Mediatoren geben wird. Es ist 5:10. Wir haben schon einige Personen unterwegs verloren, die gehen mussten. Wie sieht es bei Ihnen aus? Gibt es weiterhin? Wir wollen vielleicht dann auch möglichst gemeinsam abschließen noch und dass nicht alle einfach abgehen, leider gehen müssen. Gibt es noch weitere, vielleicht dringende oder einfach Rückmeldungen, Wortmeldungen, die Sie jetzt noch entweder an den Vorstand, an die ans Präsidium, an die Geschäftsstelle oder auch jetzt eben an Gianpaolo richten möchten. Alors, on voudrait, on a déjà plusieurs personnes qui ont dû partir, donc on aimerait peut-être commencer à boucler un tout petit peu, mais en vous donnant la parole, soit de, la parole pour que vous puissiez vous adresser au comité ou à Gianpaolo Romano, ou voilà. Alors, je vous invite à prendre la parole encore. Von den Präsidentinnen möchtet ihr
noch sagen?
Ah.
Je me permets de dire quelque chose. J'ai pas pu suivre tout le long parce que j'avais quelque chose chez au travail, mais quand même, je veux quand même nuancer 2-3 petites choses. À mon avis, je trouve que des fois on idéalise énormément la médiation. Personnellement, ça fait que 2 ans que j'ai fini mon diplôme de médiatrice familiale. Et je suis assistante sociale de formation, mais je trouve que quand on n'est pas juriste et quand on doit se lancer, la concurrence est très rude. Et je trouve qu'on vante, on parle beaucoup de médiation, mais sur le terrain, je parle avec énormément de personnes qui se sont diplômées ou des personnes qui travaillent depuis longtemps, mais qui gardent bien leur... Pour moi, il y a quand même un problème, c'est-à-dire... Ce n'est pas comme en France où l'État paye et puis chacun peut avoir droit. J'ai quelquefois le sentiment que la médiation, c'est quand même quelque chose un peu pour les riches. Je parle par exemple, moi je suis conseillère socio-éducative, je travaille avec des jeunes. J'ai des familles de divorcés qui n'ont pas beaucoup de finances, qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils ne vont pas encore payer la médiation. Je trouve dommage que dans un pays aussi riche que la Suisse, on ne puisse pas dire que c'est un service qu'on offre à la population. Alors, c'est vrai que c'est intéressant, mais encore dernièrement, je parlais avec une professionnelle qui a beaucoup de médiation et qui m'a dit on en forme trop parce qu'il n'y a pas, je veux dire, il pourrait y avoir beaucoup de demandes, mais les besoins, on ne peut pas parce que les gens qui ont vraiment besoin et qui sont dans une détresse, qu'elle soit matérielle ou autre, ne peuvent pas nous contacter ou ne peuvent pas, à moins de faire partie d'une association qui prend en charge. Et moi, je dois dire quand même, j'ai une certaine frustration et un certain regret quand même, quoi, parce que, oui, voilà, des fois, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de médiation, mais dans le concret, ce n'est pas si évident que ça. Un, de faire sa place, deux, de pouvoir aborder les personnes qui sont réellement dans le besoin. Mais bon, après, j'adhère à tout, bien sûr, mais voilà, quoi. Moi, je trouve que c'est... Et je ne suis pas la seule qui finit le diplôme et qui se dit « Waouh, ce n'est pas évident du tout, du tout. »
So, Frau Burgunde macht darauf aufmerksam, auf den Widerspruch, den es gibt zwischen den vielen Mediatorinnen, die es gibt und der Tatsache, dass es nicht so viele Nachfrage gibt und fragt sich auch, ob es nicht etwas einfach ist für die Reichen und eben nicht zugänglich für alle Menschen. Ich mache es sehr kurz, vielleicht möchte Gianpaolo darauf Antwort geben oder vielleicht gibt es noch sonst jemand, der auch eine Antwort hat auf das, was Frau Burgunder sagt. Vielleicht möchte jemand reagieren.
Moi, je souhaiterais dire deux choses, Stéphane, si tu me permets.
Vas-y.
Alors, je vous ai écouté, madame, avec beaucoup d'intérêt. Je pense qu'il faut distinguer les difficultés que vous pouvez avoir, car la concurrence est rude. Si la concurrence est rude, ça veut dire que, voilà, il y a tout de même beaucoup de personnes qui offrent ces services, qui me fait dire qu'il y a quand même une certaine demande. Par contre, j'ai été préoccupé par votre constatation ou l'impression que vous avez eue selon laquelle la médiation serait en service que seules les personnes riches, aisées peuvent se permettre. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain nombre de pays, je pense à l'Italie, où la médiation est quasi gratuite, en tout cas médiation obligatoire. Ma maman, elle avait un problème sérieux avec son frère, une querelle de voisinage ou de succession. Et alors, elle était très sceptique quant au succès de la médiation. Par contre, elle était contente de rencontrer la médiatrice qui a permis de réduire. Il y avait 5 problèmes sur la table grâce à l'intervention de la médiatrice. Ça a coûté à ma maman 70 euros. C'est-à-dire qu'en gros, cette médiatrice était payée essentiellement sur les deniers publics. Et je pense que, alors il faudrait faire du droit comparé concernant l'organisation de la médiation et qui paye pour les services de médiation. Mais je suis certain, bon, par exemple, dans le domaine de l'enlèvement international d'enfants, l'intervention du médiateur et médiatrice est gratuite pour les parties. Hein, voilà. Donc, en tout cas, en Suisse, il faudrait probablement, si ce que vous dites est vrai, essayer, grâce encore une fois à l'influence de votre association, de faire évoluer les choses. Le droit comparé pourrait servir à une évolution des choses en Suisse, de faire en sorte que l'assistance judiciaire, hein, legal aid, puisse couvrir des frais de médiation. Je sais que dans des pays aussi anglo-américains, c'est le cas. Le legal aid, l'assistance judiciaire, qui est offerte aux personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, englobe également la médiation, et même d'autant plus, elle englobe d'autant plus la médiation que la médiation, en réalité, si elle intervient, elle préviendrait une escalade des coûts qui, dans le cas de l'assistance judiciaire, pèse sur les contribuables.
Ich darf vielleicht, ja, Christine, pardon.
Voilà, j'ai activé mon micro. Est-ce qu'on m'entend?
Oui.
Est-ce qu'on m'entend? Oui, je trouve la question très intéressante et on ignore peut-être qu'il y a une règle en droit suisse. C'est l'article, non, je ne sais plus, c'est 218 ou 318 du Code de procédure civile qui permet au juge de recommander la médiation et d'offrir la gratuité dans le domaine du droit de la famille, la gratuité de la médiation lorsque les personnes concernées, donc les parents, d'enfants mineurs en particulier, sont en conflit et qu'ils estiment que la médiation est la manière qui va les aider à améliorer la situation, à travailler sur leur coparentalité. Et là, si le juge estime que ces personnes n'ont pas les moyens et qu'il estime qu'il faut recommander la médiation est gratuite. Alors la médiation, la gratuité, ça veut dire dans certains cantons, ça veut dire que l'État prend en charge et dans d'autres, parce que ça c'est organisé sur le plan cantonal, dans d'autres cela signifie que ça fait partie de l'assistance judiciaire. Mais peu de juges pratiquent cela, encore trop peu. Certains le font et de plus en plus, moi je travaille dans le canton de Vaud et j'ai des juges qui m'envoient des situations, ils recommandent la médiation, ils accordent la gratuité et voilà, ça c'est un moyen, mais il faut le faire connaître et il y a des juges qui ne sont pas encore convaincus par la médiation, mais ceux qui le sont n'hésitent pas à envoyer en médiation des personnes qui n'en ont pas les moyens. Voilà, il faut le savoir. Mais ils peuvent envoyer en médiation dans le canton de Vaud chez des personnes qui sont médiateurs, médiatrices, sur la liste des médiateurs agréés par le tribunal cantonal. Donc, voilà, il faut passer par une procédure pour être agréé, mais si on est médiateur FSM, on peut être agréé. Voilà, donc, ça existe, mais c'est trop peu connu.
Oui, là, je suis d'accord avec vous, mais par exemple, si on prend comme le professeur Romano a dit, si on parlait de prévention et si on prend par exemple soutien à la parentalité, parce que moi je ne suis pas dans la logique de me dire c'est quand on arrive chez le juge, quand on arrive que c'est vraiment le conflit extrême qu'on est enfin reconnu ou payé ou qu'on aide les gens. Mais pour moi, je trouve, en tout cas, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup en ce moment, c'est de me dire, mais un soutien à la parentalité, parce que moi, je travaille au cycle 3 avec des adolescents, je vois dans le cadre de mon travail des parents et des adolescents, et je me rends compte qu'il y a beaucoup à faire là. Alors, c'est quand même la médiation familiale, ce n'est pas spécifiquement pour le divorce. Et là, des fois, je me dis, ah, si je connaissais des fondations qui pourraient aider. Enfin, voilà, des fois, j'ai plein d'idées, mais concrètement, c'est très difficile. Et bah oui, je suis d'accord. Mais déjà, pour les juges, moi, par exemple, j'habite à La Neuville. C'est le canton de Berne, mais je travaille à Neuchâtel. J'ai demandé pour faire partie de la liste des médiateurs reconnus. Eh bien, déjà là, j'ai attendu 6 mois, je m'excuse. J'ai des fois ce sentiment, mais peut-être je me trompe totalement, c'est beaucoup de cercles fermés, quoi. Et c'est la seule chose que je regrette, et quand je parle avec d'autres, c'est le sentiment qu'on a quand on sort. C'est comme si des fois, certains ont réussi, puis d'autres pas. Et en même temps, moi, je vois le besoin d'aide que les gens ont, et que finalement... Ben voilà, mais bon, après, voilà, je vis avec ma frustration, je la gère, j'espère toujours, je me dis toujours, ben, s'il existait des fondations qui pouvaient dire, oui, allez, aider ces familles, alors oui, bien sûr, il y a la AEMO, il y a plein de choses, mais il y a beaucoup d'aides, par exemple, moi, je vois quand les jeunes doivent être aidés à la AEMO, ils doivent passer par l'Office des mineurs, les parents n'aiment pas non plus être un peu fichés. Donc,
si vous pouvez conclure, comme ça.
Pardon, ben, pour dire que finalement, c'est bien tout ça, mais je trouve qu'être accessible à tout le monde, ce serait l'idéal. Et là, pour moi, il y a beaucoup de travail à faire. Désolée.
Je me permets d'être juste de répondre de mon côté. J'ai beaucoup étudié le modèle australien de la séparation parentale et je trouve très, très intéressant parce que là, justement, c'est accessible à tout le monde. C'est quelque chose qui est où l'État a décidé de dire, voilà, il faut qu'on arrête de remplir les poches des avocats et de qu'il y ait cette souffrance qui continue. Et donc, ils ont créé des centres de relations familiales pour tout le monde, dans toutes les villes, dans tous les quartiers. Et les personnes, elles doivent passer par ces centres où il y a des cours de parentalité, comme vous dites, comme Gianpaolo Romano l'a dit, et où il y a des médiations ordonnées obligatoires avant que les gens aillent au tribunal. Et ça, c'est quelque chose qui démocratise quelque part, pour moi, la médiation, et qui démocratise cette façon de faire. Et on est plusieurs ici à cet écran et aussi parmi les personnes qui sont parties à lutter pour qu'en Suisse, on arrive vers un modèle comme ça, où ça ne soit pas seulement une affaire privée, où la médiation soit quelque chose de privé, mais quelque chose d'ordre public. Donc, alors je suis très sensible à ce que vous dites et je pense que nous devons avancer dans ce sens.
Lieber Stefan, ich denke, es ist wahnsinnig spannend und ich merke, wir könnten hier stundenlang uns darüber unterhalten, wie man die Mediation fördern kann, was wir tun können, wie die Prävention aussehen kann, was unsere Aufgabe ist. Ich schaue ein bisschen auf die Uhr und denke, dass wir jetzt trotzdem noch einen guten Abschluss finden wollen. Ich würde vorschlagen, dass es noch so eine letzte im Sinn von, wenn jemand noch etwas sagen möchte, dass man jetzt das noch kurz sagen kann, sodass dann meine Kollegin Tanja sich auch noch verabschieden kann und wir hier in das Wochenende dann einsteigen können. Ist das für dich gut, Stefan, so? Für
natürlich,
die auch?
Natürlich. Also ich
bin so ein bisschen die Zeithüterin. Genau, vielen Dank. Also, dann, wer noch so eine letzte Frage hat, können wir das gerne kurz noch aufnehmen. Sodass wir dann abschließen können.
Donc, est-ce qu'il y a un dernier commentaire de quelqu'un? Est-ce que peut-être Gianpaolo, tu aimerais encore dire une dernière phrase pour nous amener au week-end?
Bon, je tiens à vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé. Et je pense que ce que vous faites, votre activité est très méritante et qu'elle mérite d'être connue, d'être promue et que l'avenir vous appartient. Voilà.
Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Oh.
Wunderbar.
Ja, also ganz herzlichen Dank von unserer Seite her auch für diese spannenden Denkanstöße, die wir sicher alle noch mitnehmen. Und wir haben es gesehen, wir könnten da noch lange, lange weiter diskutieren. Und wir nehmen doch das als Thema mit. Und vielleicht ergibt sich da noch weiteres daraus. Auf jeden Fall mit ziemlich fast einer Stunde Verspätung enden wir hier heute. Und ich freue mich auf zukünftigen Austausch.